Proverbs chapter 4.
Proverbes chapitre 4.
Verse 13.
Au verset 13.
Reading from the New King James. Take firm hold of instruction.
Retiens l'instruction.
Not let go.
Ne t'en dessaisis pas.
Keep her.
Garde-la, car elle est ta vie.
This is a major theme of.
Ça, c'est un thème majeur concernant le livre des Proverbes, de s'attacher à la doctrine catégorique et de ne pas la laisser aller, de ne pas laisser aller l'instruction. Et c'est répété de façon différente au travers du livre des Proverbes. Et l'auteur des Proverbes, il parle de différentes choses qui peuvent nous arriver avec pour but de nous enlever de l'instruction de Dieu. Et tournons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13 aussi. Ou commençons au verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Qu'il prenne garde continuellement, c'est le temps présent dans le grec. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue. Et dans le contexte de ce matin, la tentation de quitter l'instruction divine, il est dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Père, nous regardons à toi maintenant afin de nous aider alors que tu nous as attirés dans ta présence. Tu as attiré nos cœurs dans l'adoration. Et nous tenons devant toi afin d'écouter ta pensée et ton instruction que tu vas nous donner afin que nous recevions la vie de ta parole dans l'homme intérieur. Au nom de Jésus, amen. Le verset 13 de 1 Corinthiens 10 parle du fait d'échapper, et dans le grec du Nouveau Testament, la moyen d'échapper nous donne deux significations. Il y a une façon d'échapper, bien sûr, mais la seconde partie de la définition du mot parle d'un endroit où on peut atterrir. On peut dire un avion, excusez-moi pour tous ceux qui prennent l'avion cet après-midi, mais donc un avion peut descendre. Donc il y a une façon d'échapper. Mais il y a un lieu d'atterrissage. Et dans ce mot grec, il y a les deux choses. Il n'y a pas simplement une façon d'échapper à la tentation, mais il nous donne aussi un endroit d'atterrir et de nous reposer quand nous avons échappé à la tentation. La même doctrine qui nous donne la force d'échapper, c'est la même doctrine qui nous donne un endroit pour atterrir. Et j'aimerais qu'on regarde à quatre illustrations ce matin dans la Bible de gens qui ont été tentés. Et cette tentation a toujours été dans les pensées de la vie et au travers de la repentance. Regardons par exemple à Ésaïe 55. Parce qu'au travers de la repentance, comme il est défini ici dans Ésaïe 55,
au verset 7,
que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc ici nous avons la façon d'échapper, d'oublier ma voix et ma pensée et d'atterrir dans le champ de la miséricorde de Dieu. Et nous tenons aujourd'hui dans un endroit de miséricorde, juste étant capable de chanter comme on a chanté ce matin à Dieu, et de savoir qu'il nous écoute et qu'il nous bénit, et qu'il nous remplit, et qu'il nous oint en tant que peuple de Dieu. Quel privilège! Oh, nous pouvons remercier Dieu maintenant pour cela. Nous sommes son peuple. Il est le « Je suis ». Mais il dit à nous aussi, il dit, vous êtes. Il nous dit à nous, vous êtes, parce que je suis, vous êtes mon peuple. Parce que je suis, vous êtes mon œuvre. Donc il nous donne sa nature dans 2 Pierre 1, 4. Et nous pouvons vivre dans la nature divine. C'est un miracle, n'est-ce pas? Que vous et moi puissions vivre dans la nature de Dieu. Donc, regardons maintenant à 4 individus. Dans le psaume 73, et son nom est Asaph. Asaph est un important personnage, un lévite qui avait un rôle majeur dans l'adoration. Il était un leader, un musicien. Il était, on va dire, comme Pasteur TJ, celui qui dirige la louange dans notre église. Et un jour, dans le ciel, nous verrons Pasteur TJ et Asaph diriger l'adoration dans le ciel. Il fait vraiment un bon travail, Pasteur TJ. Et j'aimerais dire cela. Je le mentionne dans mon message, pas parce qu'il m'a demandé de le faire, mais parce que, juste à cause de l'amour pour lui. Donc j'ai la liberté par la grâce de mentionner son nom aujourd'hui.
Amen.
Donc Asaph a traversé une crise dans sa vie lorsqu'il a considéré que les méchants prospèrent et que lui n'a jamais considéré avoir suffisamment et il a été tenté de vivre dans l'envie. Donc c'est quelques lettres, envie, c'est un mot vraiment méchant. Parce que l'envie nous amène à tellement de choses, certaines façons de penser tellement mauvaises, amertume, ressentiment, colère, frustration, désappointement avec Dieu, toutes ces choses semblent sortir de ce mot envie. Quand on se dit, oh, j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais avoir cela, j'aimerais que leur vie soit comme la leur. Vous n'avez jamais vu la vie de quelqu'un et la considérer comme plus facile que la vôtre. Et après, tu découvres qu'en fait, tu as été complètement fou concernant leur vie. Parce qu'ils ont traversé des choses qu'ils n'ont jamais montrées. Et donc, Asaph regardait le monde et il voyait tellement de prospérité, juste le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il est devenu envieux. Au verset 12 du psaume 73, il dit, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. »
They can take a cruise to the Caribbean.
Ils peuvent prendre une croisière, aller dans les Caraïbes, comme Pasteur Chibeli le fait, par exemple.
He loves cruises.
Il aime les croisières.
When I was on the cruise there with him, and I only went to keep an eye on him, actually. And
lorsque j'étais dans la croisière avec lui, j'avais un œil sur lui. Il se faisait bronzer sur le pont toute la journée. Et donc je devais vraiment l'avertir, c'était trop pour lui. Et une nuit, alors que je suis rentré dans le casino, il n'est pas rentré dans le casino, mais il avait envie de rentrer dans le casino. Donc quand il m'a vu, il a essayé de donner un traité à quelqu'un. C'était incroyable comment il a couvert cela. Quand tu grandis dans l'état du Massachusetts, les jeux sont vraiment, vraiment quelque chose. Il fut une époque où tu allais acheter une bouteille de lait, tu pouvais vraiment attendre longtemps. Parce qu'il y a des gens qui achetaient des tickets, s'ils gagnaient, réinvestissaient leur argent. Et ça prenait des heures pour aller acheter une bouteille de lait. Donc Asaph, il regardait à ceux qui vivaient à l'aise. Et au verset 13, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ne pensez pas qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça aujourd'hui sur la terre. Oh, c'est en vain. En vain que je suis allé à l'école biblique. J'aurais pu être un homme riche si je n'étais pas allé là-bas. Quelle vanité. C'était inutile. Qu'est-ce que j'ai tiré de cela? Rien du tout. J'ai lavé mes mains. Ce livre a été écrit 3000 ans en arrière, mais il y a un homme pieux qui a été tenté de penser comme nous sommes tentés de penser parfois, 3000 ans plus tard, parce que le cœur de l'homme est le même. Parce que les tactiques de séduction du diable sont toujours les mêmes. On est tenté de regarder et puis de dire, oh, pourquoi moi je n'ai rien? Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas un bon travail? Pourquoi je n'ai pas une belle voiture? Pourquoi ma voiture tient parce qu'il y a juste du grillage et du scotch partout? Nous avons une femme qui s'appelle Michelle Pratt dans notre église à Marlboro. Elle a eu une voiture pour 17 ans, pendant 17 ans. Elle a eu 500 000 kilomètres, une Ford Escort. Elle a tellement aimé cette voiture qu'elle était tellement triste de devoir la laisser un jour. La voiture tombait en morceaux de tous les côtés, mais elle était tellement contente d'avoir cette voiture pendant 17 ans. Mais Asaph était tellement tenté dans ses pensées. Au verset 14, il dit, « Car chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. » Il était châtié parce qu'il était un enfant de Dieu. Il y a une façon d'arrêter d'être châtié, c'est d'arrêter d'être enfant de Dieu, mais c'est trop tard si nous le sommes devenus. Et nous serons châtiés, parce que nous sommes ses enfants et il nous aime. Et au verset 15, quelque chose se passe. Il y a quelque chose entre le verset 14 et le verset 15. On peut appeler ça des moments de grâce et nous en avons tous. Quand notre pensée va dans une direction précise, et presque on part loin sur l'autoroute, on est presque tenté juste de rentrer dans le trafic de tout le monde. Et il y a quelque chose qu'on appelle grâce. Et nous disons, attends un peu, où est-ce que je vais avec mes pensées maintenant? Ça, c'est la façon d'échapper. C'est la grâce de Dieu qui nous parle au travers de l'homme nouveau et du Saint-Esprit, au travers de ce que nous avons entendu, alors que le Saint-Esprit le rappelle. Et ici nous sommes, un raisonnement divin au verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Lorsque je continue de penser comme ça, si je parlais comme je pense, je serais un traître pour les enfants d'Israël. Il a commencé à penser aux enfants de Dieu. Et il a pensé combien merveilleux ils sont, combien bénis ils sont, combien remplis de joie ils sont, combien ils aiment Dieu et qu'ils ont confiance en lui tout le temps. Il est devenu honteux de penser comme ça. Il a dit, mais si je commence à verbaliser les pensées que j'ai au sujet de l'envie, de désirer ce que le monde a, et que je commence à parler de cette façon, je serai un menteur et un traître en face des enfants d'Israël, parce qu'ils te font confiance. Et ils sont remplis, ils sont joyeux, et ils chantent des louanges. Et bien sûr qu'ils traversent des choses, mais quand ils vont au travers le feu, il n'y a pas l'odeur de la fumée. Et de mettre dans le contexte d'aujourd'hui, il pensait au corps de Christ. Et il a réalisé qu'il avait tort dans sa pensée, qu'il n'était pas vrai. Et au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que je n'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Vous n'avez pas à entrer par ces portes dans l'Église. Et n'avez-vous jamais senti, vous arrivez avec des troubles, les portes s'ouvrent, vous rentrez et maintenant vous dites, oh non, ça va, je comprends. C'est incroyable. Dans un message, nous disons, nous comprenons. Dans un temps d'adoration, nous disons, maintenant je comprends. Et Asaph a compris la vérité. Et c'était pour lui la façon d'échapper. Mais c'était aussi un endroit d'atterrir et de se reposer. Et dans le reste de sa vie, il est resté dans ce terrain de repos. Et la tentation était utilisée par Dieu pour lui donner un nouveau lieu de repos. Et c'est comme ça que nous devrions regarder les tentations. C'est une nouvelle opportunité pour moi d'apprendre de Dieu, de trouver pour moi un endroit de repos pour cette tentation particulière pour ma vie. Dans 1 Samuel, nous allons voir le prochain exemple. 1 Samuel 24. Et David était prêt à tuer Saül sous la pression de ses amis. Mais il a simplement coupé la robe du manteau, le manteau de Saül. Au verset 4 de 1 Samuel 24, à la fin du verset 4, il est dit, au verset 5, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Ça, c'est un autre moment de grâce. David a fait l'action déjà. Et son cœur est troublé, mais Dieu va lui donner un moment de grâce et un endroit de repos. Alors qu'il qu'il va considérer des choses qu'il n'avait pas considérées. Oh, que Dieu me garde de porter la main sur loin de l'Éternel, parce qu'il est loin de l'Éternel. Peut-être nous avons dit des choses à des gens et nous aimerions les reprendre. Parce que nous pensons après cela et nous disons, c'était un enfant de Dieu à qui j'ai parlé. C'était quelqu'un qui était loin de Dieu. C'était quelqu'un que Christ a racheté par son sang. Et donc nous faisons ce que nous pouvons pour nous excuser et pour demander pardon pour les paroles que nous avons prononcées ou écrites. Et c'est ainsi que David a ressenti. Je n'aurais pas dû le toucher, je n'aurais pas dû couper le pan de son manteau. Il appartient à Dieu. Oh, bien sûr, il était complètement à côté de ses chaussures. Il a essayé de me tuer. Il était rempli de jalousie. Mais pourtant, il était le serviteur de Dieu. Ce n'est pas les attitudes des hommes qui doivent nous pousser à réagir, mais nous devrions nous rappeler qui ils sont. Pas leur manière de vivre, mais qui ils sont. Peut-être que j'ai un enfant qui ne marche pas avec le Seigneur bien. Mais au lieu de réagir contre lui, contre ses manières de vivre, je dois considérer qui il est et à qui il appartient. Il appartient au Seigneur. Donc pour David, c'était un moment de grâce. C'était un tournant dans sa pensée. Le prochain exemple, c'est dans le Nouveau Testament. Luc 15. Une histoire que vous n'avez jamais entendue, bien sûr, dans Luc 15. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait avoir tout ce qu'il pouvait avoir. Et donc, il a demandé à son père de lui donner sa portion d'héritage plus tôt que prévu. Donc, il l'a pris, il l'a dépensé. Il s'est retrouvé à garder les cochons. Une sacrée illustration, n'est-ce pas? Avez-vous déjà été spirituellement parlant à garder des cochons? Je me souviens visiter mes grands-parents. Et en allant là-bas, on passait toujours une ferme qui élevait des cochons. Lorsque on voit des vaches, elles sont toujours dans la verdure. Mais quand tu vois des cochons, il n'y a pas un brin d'herbe verte. C'est juste de la boue. C'est quelque chose, on peut dire presque de dégoûtant. Et imaginez ce jeune homme vivant avec les cochons, essayant de trouver quelque chose à manger pour lui-même. C'était vraiment quelque chose de particulier, n'est-ce pas? J'espère que vous allez avoir un bon repas à midi. Et essayez d'oublier cette partie du message. Donc, il a eu ce moment de grâce aussi lui-même, se tournant dans sa pensée. Parce que lorsque nos pensées vont dans une direction et tout à coup, elles tournent en un moment, ce n'est pas nous. Parce que les pensées évoluent et grandissent dans leur façon de, dans leur vitesse. Mais c'est Dieu qui nous arrête là et qui nous dit, je vais te donner une pensée. Donc il est dit ici, il est dit qu'il est rentré en lui-même, au verset 17 de Luc 15. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi aussi je meurs de faim. La pensée était au sujet du père et les richesses du père. Et comment il y aurait une possibilité qu'il retourne vers son Père. Et c'est une grande pensée, une pensée de grâce. Alors qu'on va dans une direction opposée, voilà une pensée qui arrive. Cette pensée, c'est « j'ai un Père ». Et ce Père est riche. Et ces richesses immenses, dans Éphésiens 2:7, ces richesses de compassion, de miséricorde, ça fait que je n'ai pas besoin de vivre dans cet endroit. Peut-être qu'il me reprendrait comme un serviteur. C'était un tournant dans sa pensée, un tournant de grâce. Et je sais que nous avons tous ces moments. Et c'est bon de marquer ces moments. Parce qu'ils peuvent être des bornes, des marques dans notre vie. Parce qu'il y a des fois où nous avons juste envie de nous enfuir. Et Dieu nous parle. Une pensée nous vient à l'esprit. Et peut-être vous avez déjà pensé cela. Ton Père t'aime et peut-être qu'il te recevrait. Tu es le oint de Dieu. Les enfants de Dieu sont des gens extraordinaires. Peut-être tu n'as pas été autour d'eux depuis longtemps, mais c'est des gens formidables. Formidable. C'est ces petites pensées au sujet du corps, au sujet de la parole, au sujet de l'amour du Père, au sujet de nos richesses en Christ, elles font la différence. Comment juste une pensée de Dieu peut changer le reste de notre vie? C'est vraiment, vraiment incroyable. Une pensée de Dieu peut changer le reste de notre vie, peut nous tourner, nous diriger de nos voies qui sont destructrices. Et nous arrivons ensuite dans un endroit comme celle-ci, où les pensées de Dieu ne peuvent pas être comptées. Elles sont incalculables. On ne devient jamais fatigué de recevoir la pensée de Dieu. Elles sont toujours nouvelles, fraîches. Elles sont pour le moment. Elles sont maintenant parce qu'il est. Et il nous parle dans ce moment. Le dernier exemple, dans Romains chapitre 7. Et j'aime Romains chapitre 7. Tournons dans Romains chapitre 7 pour terminer. Ce n'est pas extraordinaire de penser que ces grands hommes de Dieu, Asaph, David et ici Paul, ont eu ce genre d'expérience, la même expérience que nous, et ils ont eu des moments de grâce, ces moments de grâce que nous avons besoin d'avoir pour être ce que Dieu dit de nous. Et Paul, dans ce chapitre de Romains 7, alors qu'il utilise le mot « je, moi »,« me », il l'utilise 44 fois dans ce chapitre. Job utilise ça aussi. Dieu l'a appelé un homme sans tache. Il était sans tache et il le savait. Et le problème était qu'il savait qu'il était sans tache. Et il est devenu orgueilleux de cela. Et lorsque la pression est venue, ça l'a amené dans une attitude défensive, même d'accuser Dieu, en allant jusqu'à accuser Dieu. Et à la fin de sa vie, il a dit, « Je ferme ma bouche. » Il a mis sa main sur sa bouche et il s'est dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu dire après tous ces chapitres, dans tous ces chapitres ?» Et ses pensées lui disaient, « Oh mon Dieu, comment j'ai pu dire une chose pareille ?» Vous n'avez jamais ressenti ce genre de choses ?« Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ?» Et il a repenti. Il s'est repenti. Ça, c'est un homme sans tâche qui est arrivé, qui a terminé dans la poussière parce qu'il était humble, mais il est devenu orgueilleux de cela. Et ça, c'est le problème avec tous les chrétiens qui ne sont pas orientés dans l'œuvre accomplie. Cela va produire une justice propre de gens qui sauront qu'ils sont justes. Donc Paul a ce genre d'expérience. Mais donc, il arrive au verset 24 et il dit, misérable que je suis, parce que c'était peut-être la meilleure chose à dire, parce que ce n'était pas au sujet de ce qu'il avait fait, mais au sujet de qui il était. Disons ça tous ensemble. Oh, misérable que je suis. Oh, pour les hommes et les femmes, la même chose. Que ce soit les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les enfants.
With your dog, oh wretched dog that I am.
Avec les chiens, les chats.
Everything in your house has to confess that.
Tous les êtres vivants doivent confesser ces choses. Mais voilà qu'il y a, voilà que ça, c'est un point de libération, c'est une pensée de grâce. Et il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Et quand il dit qui, il utilise un pronom autre que les pronoms personnels le concernant lui-même. Voilà maintenant un pronom qui n'est pas Paul. C'est Dieu. C'est Christ. Et il donne la réponse immédiatement. Il a la réponse juste après la question.
And in my Bible, it has an exclamation point after I thank God through Jesus Christ our Lord. And the psychologists would say it can't be that simple.
Et donc, les psychologistes disent, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Tu as passé des années à utiliser tes pensées, à utiliser ton pronom personnel, et tu ne peux pas juste en sortir comme ça en disant, et je remercie Dieu, et je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors que si pour nous c'est aussi simple que ça, des moments de grâce, quand nous réalisons que l'œuvre est achevée, ce sont des pensées de grâce. Et je ne rentre pas dans le trafic du monde, mais je me retrouve ici moi-même. Au milieu des peuples de Dieu, et je me retrouve moi-même dans la présence de Dieu, et je vais du désespoir dans la présence de Dieu, juste comme ça, avec une pensée, à cause des moments de grâce et à cause des pensées de grâce. Amen. Alléluia. Prions. Alors que nous baissons nos têtes, je dois vous dire que lorsque nous avons pris la Sainte Cène hier soir, une personne était là, une jeune femme qui a reçu Christ juste un jour avant. Elle était là hier à prendre la Sainte Cène avec nous. Peut-être qu'elle est déjà partie, mais... Donc si vous êtes là ce matin, et je pense que vous êtes là, et que vous n'avez jamais reçu Jésus dans vos cœurs, si vous ne l'avez jamais demandé pour être votre Seigneur personnel, il vous aime et il ne s'inquiète pas de ce que vous avez fait, de vous être allé, il veut vous sauver et vous donner le don de la vie éternelle. Vous ne le rencontrez pas simplement sur la base de combien bon vous pouvez être, mais sur la base de la croix, là où il est mort pour vous. Il veut venir dans votre vie aujourd'hui. Voulez-vous faire cette prière dans votre cœur, dire, cher Jésus, viens dans ma vie et sauve mon âme. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es né de, que tu es ressuscité de la mort et tu l'as fait pour moi. Oh, viens dans mon cœur ce matin, Seigneur. Si vous avez fait cette prière dans votre cœur, levez votre main là où vous êtes. Il y a une, deux personnes, trois personnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te remercions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait cette prière dans son cœur? Juste levez la main. Les portiers voudraient vous donner des bonnes choses à lire.